Au Yagao, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Les Nations Unies célèbrent la démocratie aujourd'hui. Au Mali, le centre Niali vient en aide aux enfants démunis.
On les apprend à lire et à écrire et à comprendre les choses. On les apprend à s'allier et à vivre ensemble.
Reportage à Gao de Boubacar Touré à suivre. Enfin au Sénégal, des médecins et des militants de droits de l'homme réclament le droit à l'avortement médicalisé. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Lola Comacri au micro, tout de suite le bulletin d'information. Le Congrès américain devrait approuver cette semaine le déblocage de 88 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest, portant à 250 millions de dollars la contribution des États-Unis, souligne l'AFP. Le président américain Barack Obama, qui aura formulé cette demande au Congrès, devrait préciser son plan d'action mardi lors d'une visite au Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta, ont indiqué lundi des responsables américains. Par ailleurs, le gouvernement malaisien a annoncé lundi l'envoi prochain de plus de 20 millions de gants de protection en caoutchouc à 5 pays africains touchés par l'épidémie de fièvre Ebola. 14 prix Nobel de la paix ont demandé à l'Afrique du Sud d'accorder un visa au Dalai Lama, lauréat en 1988 pour leur sommet prévu au Cap en octobre. C'est la troisième fois qu'il est interdit de rentrer en territoire sud-africain depuis 2009. En 2011, le chef spirituel tibétain n'avait pas pu participer aux festivités de l'anniversaire de Desmond Tutu. Nous sommes profondément inquiets des dégâts pour l'image internationale de l'Afrique du Sud, souligne les lauréats dans une lettre ouverte. Pékin, qui accuse le Dalai Lama de lutter pour l'indépendance du Tibet, a remercié Pretoria pour sa décision de lui refuser l'entrée début septembre.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Iran a signifié lundi son refus de coopérer avec Washington pour combattre les djihadistes de l'État islamique, car il juge illégitime cette coalition internationale dont l'objectif réel reste, selon Téhéran, est de renverser le régime syrien. Dans une déclaration télévisée, le leader suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'ambassadeur américain en Irak a sollicité la coopération de l'Iran, mais Téhéran a refusé car les Américains, dit-il, ont les mains sales. Bagdad a déploré ce refus. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la décapitation du travailleur humanitaire britannique David Haines par les militants de l'État islamique comme un assassinat odieux et lâche. Cet acte démontre à nouveau la brutalité des djihadistes et rappelle les dangers auxquels font face les humanitaires en Syrie, souligne le Conseil. L'ONU demande à l'État islamique, au front al-Nusra et à tous les autres groupes liés à Al-Qaïda de libérer tous leurs otages. Ici aux États-Unis, pour terminer, détresse d'un père somalien-américain de l'État du Minnesota qui affirme que son fils s'est rendu clandestinement en Syrie pour rejoindre un groupe extrémiste. Des précisions de Lionel Gaïma.
Dans une interview au service somali de la VOA, ce père a expliqué que son fils Mohamed Mohamed a disparu de la ville de Minneapolis le 18 juillet dernier. 4 jours plus tard, le jeune homme a appelé sa mère au Canada pour l'informer qu'il se trouvait en Syrie avec des frères. Mohamed vivait avec sa mère et était venu aux États-Unis pour le Ramadan. Il a disparu, sans crier gare, un vendredi après avoir dit qu'il se rendait à la mosquée, se souvient son père. « C'était choquant. Mon fils était étudiant. Il a soudainement changé. Il avait l'habitude de prier, mais était passé à 24 heures de prière et sortait rarement de mosquée. Il avait organisé son voyage à mon insu et a abouti en Syrie. » Explique le père, ajoutant que toute la famille est attristée par cette nouvelle. Comme d'autres avant lui, Mohamed a transité par la Turquie. Son histoire est similaire à celle de nombreux jeunes ayant quitté l'Amérique du Nord pour se rendre dans les rangs de groupes extrémistes au Moyen-Orient. C'est ainsi qu'Abdirahman Mohamed et Douglas MacArthur McCain, tous deux originaires du Minnesota, ont été tués au combat en Syrie. Le père de Mohamed l'a appelé à rentrer le prévenant qu'il risque de tuer quelqu'un ou d'être tué.
Ce bulletin d'information, Claire Morin-Gibourg vous retrouve tout de suite pour la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+ sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par la Journée internationale de la démocratie. À cette occasion, l'Union interparlementaire, l'UIP, recommande une série de mesures pour favoriser la participation des jeunes en politique. L'UIP est une organisation internationale qui milite pour la paix et la coopération entre les peuples. Pour plus d'investissement des jeunes en politique, elle préconise notamment un alignement de l'âge du droit de vote et de l'âge d'éligibilité, l'introduction de quotas de sièges parlementaires pour les jeunes et le renforcement de l'éducation civique et politique à l'école. Pour en savoir plus, Jean-Roger Bion, adjoint à Genève, Zena Hilal, la chef de programme pour la jeunesse de l'UIP.
L'UIP est favorable à une représentation de toutes les tranches de la population au Parlement. Donc nous soutenons fermement la participation des femmes. Nous appelons évidemment à ce que le Parlement soit représentatif de la société dans son entièreté. Et dans ce contexte-là, nous travaillons à faire en sorte que les jeunes soient également représentés au Parlement. Les quotas sont une mesure parmi d'autres. Ils se sont avérés efficaces, par exemple, pour renforcer la participation des femmes dans les institutions parlementaires. Ils se sont aussi avérés efficaces pour la représentation des jeunes. Dans certains parlements, la jeunesse constitue une grande proportion de la population dans de nombreux pays.
Alors les jeunes aujourd'hui ont des défis, j'allais dire, plus pressants, comme l'emploi, l'autosuffisance. Pensez-vous qu'ils ont de la place pour la préoccupation qu'est la démocratie?
C'est un tout. Si les jeunes ne participent pas en politique, leurs intérêts, leurs perspectives dans les décisions politiques qui sont prises ne seront pas inclus. C'est absolument essentiel que les jeunes puissent faire partie du processus de décision politique. En tant que politicien, en tant que personne consultée par les parlements, par les partis politiques concernant les différentes politiques et législations.
Zena Hilal, chef du programme pour la jeunesse de l'Union interparlementaire. Nous sommes au Mali aujourd'hui pour notre dossier consacré à la découverte du centre Niali. Niali qui veut dire la joie en son rail. Le centre Niali est une structure qui accueille les enfants démunis. Ouvert en 2009 avec 30 enfants, le centre en accueille aujourd'hui 135. Des enfants qui sont désormais nourris, lavés et habillés et vont en classe grâce à l'UNICEF et au travail de Madame Touré Koumba Hachimi. Écoutons la première partie du reportage de Boubacar Touré.
Je m'appelle Fatoumata Abiblaï. Je suis au centre Niali. Je m'appelle Suleiman Hamidou. Je viens au centre Niali pour apprendre à lire et à écrire.
Nous sommes au centre Niali, une structure qui accueille des enfants de tous sexes âgés de 3 à 6 ans issus de familles démunies. Situé au quartier Bourgoundié, extension dans la commune urbaine de Gao, le centre Niali a vu le jour en février 2009 suite à une étude de recensement d'enfants en situation difficile dans la région, commandité par la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'appui de l'UNICEF. Quelques 1875 enfants dans la région sont dans une situation difficile. Un chiffre qui ne peut laisser indifférente l'enseignante de formation, mère de famille, Madame Touré Koumba Hachimi, promotrice du centre Niali.
La première est ma formation d'enseignante, travailleuse sociale et de militante des droits des femmes et des enfants. La deuxième est mon environnement, ma proximité avec les populations démunies. Cela m'a permis de me rendre compte du combat quotidien mené par ces populations démunies pour nourrir leur progéniture. Ces femmes pauvres, épouses et mères, comme moi, sont souvent chefs de famille, rôle qu'elles jouent avec admiration. Tout simplement, en travaillant comme aide ménagère, afin de nourrir leurs enfants par les restes des repas. C'est face à cette situation que j'ai entrepris de les apporter la joie de vivre pour qu'ils se sentent égaux aux autres enfants, de se laver, de chanter, de danser, de s'habiller et surtout d'avoir l'opportunité d'aller à l'école pour éviter le formatage tel vécu par leurs parents. L'adhésion des parents à cette initiative m'a amené à mettre à leur disposition un centre des salles de classe, des animatrices et des encadreurs, à les nourrir, à les vêtir, les soigner.
La joie et le sourire sont perceptibles sur tous les visages. Pour l'exprimer, voilà deux textes de récitation. Le premier, le Caïman, livré par Aïchata Alassane, et le deuxième, Mon beau village, livré par Souleymane Hamidou. Tous au centre Niali.
Récitation, le Caïman, petit enfant, si tu vas le Caïman, va-t'en, le Caïman a trop de draps. Récitation, mon beau village, connais-tu mon beau village qui s'émile au clérisseau, encadré dans les feuillages, on dirait un nid oiseau. Ma maison parmi l'ombrage, mes souliers comme un persan.
Une dizaine de personnes se mobilisaient pour encadrer les enfants et donner la joie de vivre aux 135 enfants que compte le centre Niali aujourd'hui. Madame Mourata Issiaka, monitrice au centre Niali.
C'est en 2009, février 2009, et on a commencé avec 30 enfants. On les apprend à lire et à écrire et à comprendre les choses. On les montre beaucoup de choses. On les apprend à s'allier et à vivre ensemble. Ils prennent le repas le matin, à midi et au petit soir.
Ils ne passent pas la nuit.
Ils ne passent pas la nuit. Ce sont des enfants démunis. Il y a des orphelins aussi.
Discipline, travail, réussite, c'est la devise du centre. En tout cas, c'est ce que chantent les enfants du centre Niali. L'ouverture de ce centre est une fierté pour Fadimata Mega, mère de famille. Sa fille est admise au centre Niali, elle témoigne.
Je m'appelle Fatoumata, j'ai ma fille au centre Niali. Je suis très fière et très contente de l'ouverture de ce centre. Avant, nos enfants ne partaient pas à l'école ni au jardin parce que nous sommes pauvres. Depuis l'ouverture du centre Niali, je suis tranquille. Ma fille va à l'école, elle mange à l'école, on veille bien sur elle et je ne paye rien. D'ailleurs, je n'ai rien pour payer. Moi, je n'ai pas étudié. Mais si ma fille, elle, a l'opportunité d'aller apprendre grâce à la générosité de Madame Touré Koumba Hachimi, que je remercie et félicite au passage, je ne peux que me réjouir. Je demande à toutes les bonnes volontés d'aider le centre Niali qui donne de l'espoir à des dizaines d'enfants du quartier. Merci beaucoup à la promotrice.
Le centre fermé en 2012 après la prise de la ville de Gao par les groupes armés reprend petit à petit ses activités, mais les difficultés persistent. Madame Amourata Issiaka, monitrice au centre Niali.
Il nous manque beaucoup de choses pour les nourrir. On n'a pas de soutien. On a demandé des aides aux ONG, mais on n'a pas eu. Il y a des gens qui disent qu'ils vont nous donner, mais on n'a pas réussi jusqu'à présent. Mais c'est l'UNICEF qui nous a aidés. Un peu avec la promotion de la femme.
Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la voie de l'Amérique.
Rendez-vous demain pour la seconde partie du reportage de Boubacar Touré consacré au centre Niali. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la voie de l'Amérique et sur le 101.7 FM à Gao sur la radio Ahadar Koïma. Au Sénégal, des médecins et des militants des droits de l'homme réclament l'accès à l'avortement médicalisé, un droit qu'ils voudraient renforcer dans le cas de viol, d'inceste et de grossesse précoce. Les avortements clandestins sont l'une des principales causes de la mortalité maternelle. Reportage à Dakar de Jennifer Lazouta pour le service anglophone de la Voix de l'Amérique. Ce reportage est traduit par Michel Joseph.
Selon une estimation de l'OMS, 10% des décès de femmes enceintes au Sénégal sont dus à des complications liées à des avortements clandestins ou dangereux. 60% des avortements illégaux sont pratiqués sur des femmes entre 19 et 25 ans. De nombreuses filles et femmes qui sont célibataires ou ont été violées disent ne pas avoir eu d'autre solution. Le docteur Amine Daoufal, président de l'Association des femmes médecins du Sénégal, dit que les avortements clandestins sont de plus en plus courants.
Avant, il fallait chercher un professionnel de la santé pour se faire avorter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les gens se font avorter eux-mêmes. Il y a l'Internet, tout est ouvert. Et donc, les gens vont chercher l'information là où ils veulent. En tant que médecin, donc, nous sommes concernés directement par la question. les avortements sont des questions de santé.
L'avortement est illégal au Sénégal. Une exception a été ajoutée à la loi en 1967, qui le permet seulement si la vie de la mère est en danger imminent. Mais dans un tel cas, trois médecins doivent témoigner au tribunal au nom de la femme avant de pouvoir effectuer l'avortement. Une longue et coûteuse procédure, déplorent les observateurs. Fatou Kiné Camara, président de l'Association des juristes sénégalaises, estime que cette loi doit être amendée d'urgence.
La définition d'une loi, c'est de protéger la santé des populations d'une manière générale. Pourquoi? Pour sauver la vie de la mère, pour préserver sa santé physique, pour préserver sa santé mentale. Mais est-ce réellement le cas? C'est-à-dire que ce sont des lois très restrictives.
La juriste dit que les femmes au Sénégal qui se font avorter peuvent faire face à 10 ans de prison et jusqu'à 200 dollars d'amende. Les médecins effectuant des avortements illégaux peuvent voir leur licence suspendue ou révoquée et faire face à des peines de prison et des amendes similaires. Madame Camara ajoute que les lois restrictives sur l'avortement ont également conduit à une augmentation des infanticides, surtout dans les milieux pauvres où les grossesses non désirées sont fréquentes. Les agents de santé font pression pour un meilleur accès à la contraception d'urgence, comme la pilule du lendemain. Mamadou Sow, pharmacien à Dakar, dit que les besoins des jeunes sont largement entravés par certains tabous sexuels ancrés dans la tradition.
Par mon travail que je fais au niveau de la pharmacie et par rapport aux réalités locales dans nos quartiers, par rapport également aux réalités, par rapport au déficit de communication sur la sexualité au niveau des familles, par rapport également aux besoins des jeunes filles, par rapport surtout à la santé reproductive, nous pensons que la contraception d'urgence constitue le meilleur élément pour diminuer donc les grossesses non désirées.
Selon le Consortium international pour la contraception d'urgence, seulement 0,2% des femmes au Sénégal disent avoir eu déjà recours à la contraception d'urgence et seulement 8% des femmes en âge de procréer utilisent un moyen moderne de contraception. Le ministre de la Santé soutient les activités de planification familiale et travaille à éduquer les gens sur les dangers des avortements clandestins, tout en examinant la possibilité de permettre un avortement médicalisé dans certaines circonstances, mais dit n'envisager aucune loi pour l'instant.
Bagni suña lilla Yembo suña lilla
Bagni wuya Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Joe Gill qui était à la technique, au micro Clermont Rajibour. Nous nous quittons en musique avec Nfali Kouyaté et son Diana Niemo.
Konoi banyangarabiko amolu yentu nyarabiko jankarmi doctor mabasi soronyalo adum jarabik belema la ilaha illallah
Muhammadu Rasulullah. Rendez-vous demain 21h temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.